Salutations, amis et frères. Je suis le docteur Bob Thiel, de l'Église de Dieu Continuante. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du véritable repentir chrétien. Or, la Bible enseigne, par exemple dans le livre des Actes, que pour être chrétien, il faut se repentir. Mais comprenez-vous vraiment ce qu'est la repentance? Est-ce un sujet qui vous concerne réellement? Si vous êtes déjà chrétien, c'est un point important à prendre en compte. Si vous ne l'êtes pas, c'est une question que vous devez vous poser. Commençons par une définition du repentir tirée du dictionnaire. Voici celle de l'American College Dictionary. Éprouver du remords ou de la contrition pour sa conduite passée, ressentir un tel chagrin pour un péché ou une faute qu'on est disposé à changer de vie pour le mieux. La définition biblique englobe tout cela, et bien plus encore. Le message de Jésus était un appel à la repentance, et il le pensait vraiment. Il s'agissait d'une véritable repentance, et non d'une simple émotion passagère. Il existe dans ce monde une souffrance purement humaine et physique, une souffrance émotionnelle qui, selon la Bible, conduit à la mort. Connaissez-vous la différence entre une simple émotion humaine, qui pousse certains à sangloter ou à verser des larmes, et la tristesse selon Dieu, qui mène à une véritable repentance? Or, dans Luc 13, Jésus a dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez de même ». Dans sa parabole de la brebis perdue et des 99 autres, Jésus a dit « Je vous le dis, de même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance ». Je vais vous raconter une vieille histoire. Un entraîneur de basket était stupéfait. Un joueur de son équipe avait volé le ballon. Si vous n'êtes pas américain, vous ne connaissez peut-être pas très bien le basket. Le principe est simple. On fait rebondir le ballon et on le lance dans un panier, d'un côté ou de l'autre, selon l'équipe. Dans son excitation, ce joueur, qui avait subtilisé le ballon à un adversaire, s'est mis à dribbler vers le mauvais panier. « Tu vas dans la mauvaise direction !» a crié l'entraîneur. « Arrête ! Fais demi-tour ! Va dans l'autre sens !» Mais en vain, le joueur n'a rien voulu entendre. Il a marqué un panier, mais pour la mauvaise équipe. De même que ce joueur a reçu l'ordre de s'arrêter et de faire demi-tour, Dieu a ordonné aux êtres humains de s'arrêter, de faire demi-tour et de changer. Dans la Bible, on appelle cela la doctrine de la repentance. J'ai entendu une autre histoire à propos d'ouvriers qui défrichaient une forêt pour un projet de construction. Ils travaillaient d'arrache-pied quand un chef d'équipe est arrivé et a crié « Arrêtez ! Mauvaise forêt !» Mais quelqu'un a rétorqué « On ne peut pas s'arrêter maintenant, on a presque fini. » C'était une erreur. Ils allaient dans la mauvaise direction et n'auraient pas dû continuer. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas changer. Dans ce cas précis, le contremaître estimait qu'après tous ses efforts, il fallait poursuivre dans cette voie. Certains invoquent des raisons familiales, des traditions, des liens familiaux, le travail ou autre. Qu'est-ce que la repentance ? D'un point de vue chrétien, la repentance est un passage de la voie de l'acquisition, ou voie du diable, à la voie du don, voie de Dieu. J'ai cherché dans une Bible en ligne le mot grec traduit par repentance, métanéo. La définition courte proposée est « se repentir, changer d'avis ». Une définition plus longue inclut la transformation intérieure, notamment l'acceptation de la volonté de Dieu, et le repentir. Pourtant, beaucoup ne comprennent pas vraiment ce qu'est la repentance. Ils pensent que se repentir, c'est simplement regretter quelque chose, mais c'est bien plus que cela. La repentance implique un véritable changement, et non pas seulement du regret. Ceux qui ne comprennent pas la repentance ont tendance à persévérer dans l'erreur spirituelle. Ils ignorent les commandements de Dieu qui les appellent à se convertir. Mais il n'est pas nécessaire de rester dans l'ignorance, il suffit de le savoir. Jésus a enseigné la repentance, alors ouvrons l'Évangile selon Marc, chapitre 1, à partir du verset 14. La plupart des passages que je lirai aujourd'hui proviennent de la New King James Version, une version anglaise de la Bible. Marc 1h14 dit « Après l'arrestation de Jean, Jésus se rendit en Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus exhortait les gens à changer et à consacrer leur vie au royaume de Dieu. Après l'ascension de Jésus au ciel, relaté dans le chapitre 1 du livre des Actes, j'aimerais aborder le chapitre 2. L'apôtre Pierre y enseigne la repentance. Voyons plus précisément ce qu'il a enseigné. Ce passage se situe le jour de la Pentecôte, au chapitre 2 des Actes, à partir du verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Vous pensez peut-être qu'il n'a enseigné cela qu'une seule fois. Passons au chapitre suivant. Actes, chapitre 3, commençons au verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Il est vrai que Jésus a payé le prix de nos péchés, mais remarquez que nous sommes appelés à nous repentir afin que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été annoncé auparavant, et que le ciel doit recevoir pour le temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Se repentir signifie passer de notre façon de vivre, ou de la façon de Satan, à la façon de Dieu. Bien sûr, on ne se rend pas compte qu'on vit selon Satan, mais si l'on ne vit pas selon Dieu, on vit selon Satan. Satan se soucie peu de la voie que vous choisissez, pourvu qu'elle ne soit pas celle de Dieu. Il existe de nombreuses façons de vivre loin de Dieu, et je ne pense pas que Satan se préoccupe particulièrement de celles que vous suivez. Il peut en préférer certaines, mais tant que vous ne suivez pas la voie de Dieu, cela lui convient parfaitement. Or, nous devons vivre selon Dieu. La repentance survient lorsque nous prenons conscience de nos péchés, que nous les regrettons profondément, que nous cessons de pécher et que nous prenons la résolution d'obéir à Dieu. Nous croyons en sa parole, et avec son aide, nous lui obéissons réellement. Or, beaucoup de gens ont une conception de la repentance assez éloignée de la simple vérité biblique. Certains n'en voient pas la nécessité, car ils pensent ne pas avoir péché. D'autres pointent du doigt les autres et disent « Ils sont pires que moi ». Ou encore, s'ils ont le sentiment d'avoir péché, ils ne croient pas vraiment que Dieu doive intervenir. Certains pensent qu'ils n'ont pas à se repentir, car ils croient qu'il suffit de croire ou d'accepter certaines vérités de manière théorique. Mais ce sont là de fausses croyances qui ne permettent pas d'accomplir les commandements de Dieu. Comme je l'ai mentionné précédemment, le mot anglais « repent » est en fait la traduction d'autres mots de la Bible. Qu'il s'agisse d'un mot hébreu ou grec, les mots dont « repent » et la traduction signifie fondamentalement se tourner vers Dieu ou changer de direction. Beaucoup de gens font un petit pas en arrière, mais pour se repentir véritablement, il faut se détourner complètement. Ce changement de direction implique de cesser de s'égarer et de prendre la résolution de suivre la voie de Dieu. Il faut obéir à Dieu, avec son aide. Mais on ne peut ni savoir ni voir qu'on s'égare si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit. En vérité, si Dieu ne vous accorde pas la repentance, vous ne vous repentirez pas. Le fait que Dieu vous en donne l'occasion ne signifie pas que vous le ferez. Mais si Dieu ne le fait pas, vous ne vous repentirez pas. Ouvrons l'Épître aux Romains et lisons un passage de l'apôtre Paul sur la repentance. La Bible affirme clairement que ce n'est pas notre propre volonté, mais la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Ouvrons donc l'Épître aux Romains, chapitre 2. Je vais commencer la lecture au verset 1. C'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. En effet, vous qui jugez, vous faites les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu est juste et condamne ceux qui font de telles choses. Verset 3. Et toi, ô homme, qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et agissent d'eux-mêmes, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est ce que dit la Bible. C'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. La Bible affirme clairement que la repentance est un don de Dieu. Par exemple, dans Actes 11:18, il est dit « Il accorda aux païens la repentance qui menait à la vie ». Passons maintenant à la deuxième épître à Timothée, pour lire un passage écrit par l'apôtre Paul. Voici le chapitre 2. Je vais commencer la lecture au verset 24. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur se querelle. Il doit être doux envers tous, capable d'enseigner, patient, et corrigeant avec douceur les opposants, dans l'espoir que Dieu leur accorde la repentance. » Ainsi, si Dieu leur accorde le repentir afin qu'ils connaissent la vérité, Dieu vous accorde aussi le repentir afin que vous connaissiez la vérité. Il est dit ensuite, et qu'ils reviennent à la raison et échappent au piège du diable, qui les a tenus captifs pour faire sa volonté. Ceux qui ne suivent pas la voie de Dieu suivent celle de Satan. Ils n'en ont pas conscience. Ils ne disent pas, « Je n'adore pas le diable, mais si vous ne suivez pas la voie de Dieu, vous suivez celle de Satan. » La voie de Satan, c'est de ne pas suivre celle de Dieu. C'est de suivre sa propre voie, ou une voie influencée par les traditions et autres choses contraires à la volonté de Dieu. J'aimerais maintenant vous lire un texte de Feu Denis Lucaire. Il était évangéliste au sein de l'ancienne Église universelle de Dieu. Je crois l'avoir rencontré ou lui avoir parlé une fois, il y a longtemps. Quoi qu'il en soit, il écrivait qu'il existe deux formes de repentance, celle qui vient de Dieu et qui conduit à la vie éternelle, et celle qui vient du monde et qui ne mène qu'à la mort. Il expliquait que beaucoup de gens vivaient ce qu'on appelle une expérience religieuse, généralement associée au fait de « donner son cœur au Seigneur » ou de prendre la décision de suivre le Christ. Mais cela représente-t-il une véritable repentance au sens biblique du terme ? Si vous souhaitez trouver ce texte, il s'agit d'un article intitulé « Qu'est-ce que la repentance pieuse ?» paru dans le magazine Tomorrow's World en avril 1972. Un véritable repentir, un repentir sincère, ne naît pas d'un événement intérieur provoqué par un office religieux émouvant. Il ne s'agit donc pas d'un prédicateur qui vous touche émotionnellement et vous fait dire « oui » ou « je me suis repenti ». Le véritable repentir, celui que Dieu exige, est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu doit inspirer en chacun. Il a dit que 2 Timothée 2, 24-25 et Actes 11-18 indiquent clairement que Dieu doit accorder le repentir. Je vous ai déjà lu ces passages. Le vrai repentir est bien plus qu'une simple expérience émotionnelle. Il poursuit en racontant l'histoire d'un personnage fictif qu'il a nommé Joe Bloch. Il écrit « Joe croyait en Dieu, du moins c'est ce qu'il disait. Il allait à l'église assez régulièrement, mais il aimait aussi boire et s'amuser avec les étudiants pendant la semaine. Il travaillait dur et était assez discipliné. Mais le samedi soir, il fêtait ça en s'enivrant, ce qui le menait parfois à la fornication. Il savait que c'était mal, car il savait que la Bible condamnait l'ivresse et la fornication. Après avoir dégrisé le dimanche matin avec une terrible gueule de bois, il regrettait amèrement son geste. Il versait des larmes et se jurait de ne plus jamais recommencer. Il allait à l'église ce jour-là et se repentait. Sensément, cela lui donnait l'impression d'être sage pour une semaine de plus. Mais presque tous les samedis soirs, le vieux Joe se saoulait à nouveau et commettait la fornication. Le lendemain matin, il le regrettait profondément et se repentait. Si vous aviez vu le vieux Joe, vous auriez été sûr qu'il se repentait vraiment. Il était si sincère. Il versait tant de larmes. Il demandait pardon à Dieu à chaque fois, et il allait à l'église pour se confesser et expier ses péchés. Quel était le véritable problème de Joe ? En réalité, il ne s'agissait pas d'un véritable repentir. Son repentir était superficiel, il n'était pas sincère. Il s'apitoyait sur son sort. Il éprouvait une tristesse mondaine. Il se sentait coupable car il savait qu'il n'aurait pas dû pécher, et pourtant, il a péché. Il était bouleversé par les conséquences du péché, mais non parce qu'il avait péché contre Dieu ou contre qui que ce soit. Son repentir était égoïste, et nous l'avons probablement tous éprouvé à un degré ou un autre. Il n'a ressenti qu'un remords, une tristesse et une culpabilité passagers. Il a continué à répéter les mêmes péchés sans cesse. Si Joe avait su que le véritable repentir vient de Dieu, il aurait prié avec ferveur et aurait demandé à Dieu de l'aider à se repentir. Dieu lui aurait accordé un repentir sincère si Joe avait vraiment voulu cesser de pécher définitivement. Celui qui recherche le vrai repentir le trouvera, car Dieu est disposé à l'accorder. Il conclut ensuite par 2 Pierre 3:9, citant « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et Dieu accordera la repentance à quiconque appelle à sa vérité. Nous ne pouvons être appelés à la vérité que si Dieu, de sa propre initiative et non de la nôtre, décide de nous appeler. Dieu appellera ceux qu'il juge aptes à être appelés en ce temps, et nous espérons que vous en faites partie. Surtout si vous nous écoutez maintenant. Nous le souhaitons ardemment. Maintenant, j'aimerais lire un passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Certains d'entre vous pourraient penser, « Non, Dieu n'a pas besoin de nous appeler. » Or, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jean 6, à partir du verset 43, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Permettez-moi de revenir au verset 44. Jésus a dit, « Personne, cela vous inclut, cela m'inclut, personne d'autre que vous connaissez, ou même personne que vous ne connaissez pas, ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Maintenant, si vous entendez ceci, si vous le comprenez et si cela vous touche, et si vous ne l'avez pas encore fait, alors Dieu vous appelle. Il vous conduit à la repentance si vous le suivez. Cependant, beaucoup refusent de suivre les enseignements de la Bible. Beaucoup ne sont pas reconnaissants de l'appel que Dieu leur a adressé, ni de l'opportunité qu'il offre à ceux qui sont appelés en ce temps. Il existe d'autres formes de repentance que doivent accomplir ceux qui ont déjà été appelés. Nous y reviendrons. Mais tous devraient vraiment croire en Dieu. J'aimerais aborder le chapitre 3 des Proverbes. Je le cite souvent, et je pense vraiment qu'il devrait être mémorisé. Au moins les versets 5 et 6, mais je crois que tout le passage des Proverbes 3, des versets 5 à 12, est très pertinent par rapport à cette notion de repentance. Proverbes 3, à partir du verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Les gens n'aiment pas faire ça. Ils disent avoir confiance en Dieu. Joe, comme nous l'avons vu précédemment, croyait en Dieu, mais pas de tout son cœur. Il s'appuyait sur sa propre compréhension. Nous commettons tous cette erreur. Comme je l'ai déjà dit, et je le répète, quel est le commandement le plus souvent transgressé? Le premier. Les gens font constamment passer des choses avant Dieu. Ils se placent eux-mêmes avant Dieu, leur propre compréhension avant Dieu, et cette compréhension est influencée par Satan. Il poursuit, « Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Ce qui bloque souvent les gens, c'est la suite. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Craignez l'Éternel et éloignez-vous du mal. Certains pensent que je ne suis pas mauvais ou que je crains suffisamment Dieu. Beaucoup se croient sages. Satan était Lucifer et il s'est rebellé. Verset 8. Ce sera la santé pour votre corps et la force pour vos os. Verset 9. Honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tout votre revenu. Beaucoup n'ont pas la foi nécessaire pour cela. Ils ne veulent pas changer. Certains disent que je suis pauvre. Vous ne comprenez pas. Je ne peux rien donner, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tout votre revenu. Les gens refusent de le croire, ils n'ont pas une confiance absolue en Dieu. S'ils le font, le verset 10 dit, « Alors vos greniers seront remplis d'abondance et vos cuves regorgeront de vin nouveau. » Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne déteste pas sa réprimande. Beaucoup de gens détestent la correction de Dieu. Dieu intervient. Il fait diverses choses pour que les gens s'examinent et se repentent, mais souvent, ils refusent. Ils ignorent les problèmes professionnels, financiers, familiaux, de santé ou tout autre problème ou circonstance qui se présente, car parfois Dieu les corrige. Verset 12. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Certes, la correction n'est jamais agréable. Le Nouveau Testament nous en parle. Mais il est dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime, comme un père corrige le fils qu'il chérit. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui révèle qu'il a mené une vie erronée et qu'il commence à prendre conscience de ses péchés. Puisque le péché est la transgression de la loi, 1 Jean 3:4, Dieu révèle les péchés en ouvrant l'esprit à la compréhension de sa loi. Sa loi définit le chemin de la vérité. Dieu peut aussi procéder ainsi en montrant les failles des religions traditionnelles de ce monde. Celui qui comprend véritablement la loi de Dieu réalise qu'avant de se repentir, il ne vivait pas en accord avec elle. Certains disent « J'ai toujours respecté la loi de Dieu. » Il faut y regarder de plus près. Vous avez péché, et vous devez vous repentir et changer. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Romains 5:12, « Tous pêchent ». Il a également écrit, dans Romains 3:23, « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela signifie que vous avez péché et êtes privés de la gloire de Dieu. Vous êtes inclus dans ce « tous ». Ne pensez pas être une exception. Je pense que Satan se croyait lui-même une exception. Ouvrons la première épître de Jean, chapitre 1. Nombreux sont ceux, même parmi les chrétiens, qui semblent ignorer qu'ils pêchent. La repentance n'est pas réservée à ceux qui n'appartiennent pas à la véritable Église de Dieu. Ceux qui en font partie doivent aussi se repentir. Voyez le verset 8 de 1 Jean, chapitre 1. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Relisons. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Nous n'allons peut-être pas clamer haut et fort « Je n'ai pas de péché », mais nous pouvons agir comme si nous n'avions pas besoin de changer. Verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous sommes donc appelés à confesser nos péchés à Dieu. Verset 10. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Nous devons vivre selon toute la parole de Dieu. La présence du péché exige la repentance. Dieu ne promet pas de nous pardonner si nous ne nous repentons pas et ne sommes pas baptisés. Nous avons tous été esclaves du péché. Ouvrons l'Épître aux Romains, chapitre 6, et lisons ce que l'apôtre Paul a écrit à propos du salaire, de la conséquence, du péché non pardonné, la mort. Romains 6, à partir du verset 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors, dans les choses dont vous avez maintenant honte? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous portez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. » Verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne semblent pas ressentir le besoin de se repentir. Certains ressemblent aux Juifs imbus de leur propre justice auxquels Jésus a dû faire face, qui ne reconnaissaient pas leurs péchés. Ce sujet est abordé dans Jean 8, 31-47. Passons maintenant au psaume 51. Lorsqu'on prend pleinement conscience de ses péchés, on devrait en être profondément bouleversé. Le repentir n'est pas seulement de la tristesse, mais il s'accompagne d'une profonde émotion et d'un chagrin intense. Le roi David était si profondément affligé par le péché de Bethsabée que son état d'esprit transparaît dans ce psaume. Dans le psaume 51, à partir du verset 1, David écrit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Lave-moi soigneusement, pas juste un peu, lave-moi soigneusement. » Verset 3. « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi seul que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et sans reproche dans ton jugement. » Je me souviens d'une année où j'étais dans une chorale. Je ne suis pas particulièrement doué pour le chant, et c'est en partie pour cela que je n'ai pas continué. Nous chantions un chant qui faisait référence, notamment à partir du verset 10. Permettez-moi donc de lire le verset 10 du psaume 51. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. » Nous parlons donc d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit et qui a péché. On peut pécher même en ayant le Saint-Esprit, et il est nécessaire de se repentir. Verset 12. « Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par ton esprit généreux. Alors j'enseignerai tes voies aux pécheurs, et les pécheurs se convertiront à toi. » Verset 14. « Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirai. Tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas. Soyez reconnaissant envers Dieu, car il vous pardonnera. Il a envoyé son Fils mourir pour vos péchés. » Passons au chapitre 42 du livre de Job. Job était un homme si bon que Dieu dit à Satan, et Job, tu n'as pas réussi à l'atteindre. Satan inventa 1000 excuses, et Dieu permit alors à Satan d'infliger à Job diverses difficultés et épreuves. Mais Job avait des problèmes qu'il n'avait pas encore identifiés. Il finit par les reconnaître. Au chapitre 42, à partir du verset 5, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me déteste et je me repens dans la poussière et la cendre. » Il avait déjà une vague idée de Dieu, mais maintenant, il a enfin compris. L'une des raisons, dans mon cas particulier, est un passage des Écritures auquel je repense encore de temps à autre. Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout le monde le sait. Mais on pourrait dire que Dieu était le commencement. Ce n'était pas mon cas, ni le vôtre. Lisez le Nouveau Testament. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est Dieu. Ne vous y trompez pas. Job n'a pas suffisamment perçu la présence de Dieu au début. J'espère que vous la percevrez et que vous vous repentirez. Passons maintenant au Nouveau Testament, et plus précisément au livre des Actes, chapitre 8. Je vais vous parler d'un homme nommé Saul, que vous connaissez sous le nom d'apôtre Paul. Voici un verset des Actes, chapitre 8. Quant à Saul, il ravageait l'église, il entrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux qui étaient emprisonnés étaient souvent mis à mort. Saul était donc un homme mauvais. Voyons maintenant ce qui se passe au chapitre suivant, au chapitre 9, à partir du verset 1. Alors Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes ou des femmes qui étaient dans la voie, il puisse les amener liés à Jérusalem. Il voulait vraiment se débarrasser de l'Église. Il était rempli de haine et animé d'une motivation implacable. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il pensait obéir à Dieu en agissant ainsi. Verset 5. Saul lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. » Aujourd'hui, certains persécutent sans pitié l'Église de Dieu sur Internet et par d'autres moyens. Ils ne comprennent pas. Mais dans ce cas précis, Saul a compris très vite. Verset 6. Tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Jésus lui dit « Lève-toi, va dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Il y alla donc. Pendant 3 jours, il ne mangea ni ne but. Il était aveugle et refusait de manger et de boire. Alors un disciple de Damas, nommé Anania, arriva. Dieu dit à Anania, au verset 11, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et demande à Judas où trouver un certain Saul de Tarse. Car voici, il est en prière, et il a vu en vision un homme nommé Anania entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il recouvre la vue. Paul jeûnait, priait et était aveugle. Anania dit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et il est venu ici pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car il est un instrument que j'ai choisi. » On pourrait donc penser que Saul serait la personne la moins susceptible d'être choisie par Dieu. Un individu abominable, qui semait la terreur et tuait des chrétiens, les arrêtait, et il n'y était pas obligé, il s'est porté volontaire. Il est allé voir le grand prêtre et lui a demandé davantage d'autorité pour accomplir ses actes. Anania alla donc et fit ce qu'on lui avait dit. Puis, au verset 18, Saul recouvra la vue, se leva, fut baptisé et passa du temps avec les disciples à Damas. Il désirait approfondir sa connaissance de sa mission. Puis, au verset 20, il annonça aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Beaucoup de gens étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas celui qui faisait périr à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom et qui est venu ici précisément pour les livrer, liés au grand prêtre ?» Il allait arrêter ces chrétiens et maintenant, il était l'un d'eux. Il avait changé, il s'était converti. Au verset 22, Saul grandissait en force et confondait les Juifs de Damas, prouvant que ce Jésus était le Christ. Les Juifs présents pensaient donc qu'il allait venir exterminer tout ce peuple. Ils disaient cela parce qu'ils trouvaient cela absurde. Il ne voulait rien entendre. C'était un changement, un renversement total, une réorientation. C'est ce qui devrait se produire lors d'une repentance biblique. Saul a changé. Certains d'entre vous pensent peut-être que mes péchés sont graves et que Dieu ne peut pas me pardonner. Voyez ce que faisait Saul. Je doute que vous ayez fait pire. Quoi qu'il en soit, le repentir inclut bien sûr le regret, mais il va plus loin. Un criminel endurci et condamné éprouve de la culpabilité sur le chemin de l'échafaud, mais ce n'est pas du vrai repentir. C'est simplement une dépression égoïste, une angoisse intérieure provoquée par la peur panique de la punition. Le repentir selon Dieu signifie cesser de pécher et se détourner du mal, changer de vie. Il n'est pas toujours facile de dire « je suis désolé », mais c'est encore plus difficile de le penser sincèrement. Le repentir selon Dieu doit venir du cœur, guidé par Dieu. Passons maintenant au livre des Actes, chapitre 17. Dieu veut que tous se repentent, et j'ai lu cela plus tôt dans la deuxième épître de Pierre. Acte 17, à partir du verset 22, Paul se tenait au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes, à tous égards, très religieux. En effet, en parcourant votre ville et en considérant vos lieux de culte, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription, au Dieu inconnu. » Pour faire une petite digression, ma femme et moi nous sommes retrouvés par hasard à l'aréopage lors d'un séjour à Athènes. Nous avons aperçu un endroit, et j'ai marché sur un rocher assez glissant. Il fallait faire attention, et je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris plus tard que c'était l'aréopage. Nous y sommes donc retournés par la suite, et j'ai pu voir l'endroit précis où Paul se tenait lorsqu'il prêchait. Il cherchait à établir un lien avec son auditoire. Il expliquait qu'ils adoraient celui qu'ils ne comprenaient pas poursuivant dans les Actes des Apôtres, il disait « Je vais vous l'expliquer ». Puis il tenta d'établir un lien avec eux. Il dit, au verset 28, « Vos propres poètes ont dit, nous sommes sa descendance ». Puis, au verset 29, « Puisque nous sommes la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la nature divine soit semblable à l'or, à l'argent ou à la pierre, façonnée par l'art et l'invention humaine. En vérité, Dieu a fermé les yeux sur ces temps d'ignorance. Mais maintenant, il ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Dieu désire donc que tous se repentent. Souvenez-vous, j'ai dit que Dieu doit vous amener à la repentance. C'est vrai, mais il souhaite néanmoins que vous vous repentiez, et si vous êtes disposé à l'écouter, Dieu vous y conduira. Verset 31. Car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit manifestement d'une référence à Jésus. Passons maintenant à l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Dans les Actes des Apôtres, Paul s'adressait principalement aux non-juifs, les Grecs d'Athènes. Les chrétiens sont également appelés à se repentir des œuvres mortes. Hébreux 6, dès le verset 1, dit « C'est pourquoi, laissant de côté les premiers éléments de la connaissance du Christ, tendons à la perfection. Nous sommes appelés à tendre vers la perfection. Si vous n'êtes pas parfait et que vous êtes encore sous l'emprise de cette chair, cela signifie que vous avez encore besoin d'une forme de repentance. Poursuivons avec Hébreux 6. Ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Remarquez, il s'agit d'un principe élémentaire, d'une doctrine fondamentale. La repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Viennent ensuite la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. La repentance est l'un des fondements de la foi chrétienne. Éphraïm était l'un des deux fils de Joseph, fils d'Israël, fils d'Isaac, fils d'Abraham. S'adressant à Éphraïm, le peuple de Dieu, Dieu annonce qu'il les punira pour leur absence de repentance. Nous allons donc lire Osée 7, 14-16. Je ne suis pas certain de la traduction exacte. Quoi qu'il en soit, Osée 7:14, à propos d'Éphraïm, ils ne m'ont pas imploré de tout leur cœur lorsqu'ils se lamentaient sur leur lit. Ils se rassemblent pour le blé et le vin nouveau, ils se rebellent contre moi. Malgré ma discipline et la force que j'ai déployée, ils méditent le mal contre moi. Ils reviennent, mais non au Très-Haut. Il y a donc eu un certain changement, mais insuffisant. Pour l'avenir, sans repentance nationale, les descendants de Joseph, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont condamnés. Ces nations ont besoin d'une repentance nationale. J'aimerais lire un autre passage d'Osée, cette fois-ci du chapitre 11, verset 3. J'ai enseigné à Éphraïm à marcher. Verset 5. L'Assyrien sera son roi. Or, pourquoi les Assyriens seraient-ils son roi? Parce qu'ils ont refusé de se repentir. L'épée frappera ses villes, dévorera ses territoires et les consumera, à cause de leurs propres conseils. Mon peuple est résolu à se détourner de moi. Bien qu'il invoque le Très-Haut, aucun ne l'exalte. Or, remarquez qu'il est dit qu'ils refusent de se repentir, notamment à cause de leurs propres conseils. Autrement dit, ils écoutent leurs propres opinions ou celles des autres plutôt que celles de la Bible. Ils ne croiront pas vraiment ce que ce livre affirme. Ouvrons Isaïe 66. J'aimerais lire un passage commençant au verset 2. « Car toutes ces choses que ma main a faites, et toutes ces choses qui existent, dit l'Éternel, mais voici celui sur qui je porterai mon regard, celui qui est humble et contrit d'esprit, et qui tremble à ma parole. » Trembler à la parole de Dieu. Être prêt à changer à cause de ce que dit la parole de Dieu. Être convaincu par ce que dit la parole de Dieu, et non pas simplement « j'ai lu ça, c'était une belle histoire » ou « j'ai lu ce passage de la Bible, c'était bien, donc tout va bien ». Non, il faut la prendre au sérieux. Passons maintenant à l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Votre Bible dit que plusieurs personnes ont fait semblant de se convertir, mais sans sincérité. La repentance d'Éphraïm, comme celle de beaucoup d'autres, était superficielle, une repentance mondaine, sans profondeur ni sincérité. C'est pourquoi, une fois encore, l'Assyrien sera leur roi. Je n'aborderai pas ce sujet dans ce sermon. Bref, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Beaucoup se repentent comme Ésaü, le frère de Jacob. À partir du verset 14, recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Comment pourrait-on se priver de la grâce de Dieu? De peur qu'aucune racine d'amertume, en poussant, ne cause du trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous aucun impudique ni aucun profane comme Ésaü, qui, pour un morceau de pain, vendit son droit d'aînesse. Car vous le savez, lorsqu'il voulut ensuite hériter de la bénédiction, il fut rejeté. Car il ne trouva point de lieu pour la repentance, bien qu'il la cherchât avec larmes. Ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on se repent. J'ai vu des gens qui pleurent beaucoup, et même si les larmes sont parfois justifiées, certaines personnes qui pleurent beaucoup ne semblent pas vraiment changer. Pour revenir à Christ, j'aimerais lire un extrait d'un texte du regretté pasteur général de l'Église de Dieu par la radio et de l'Église universelle de Dieu, Herbert Armstrong. Voici un passage de sa brochure intitulée « Que signifie la repentance ? Cherchez Dieu ». Au lieu de lutter contre ces problèmes par nos propres forces, nous devons apprendre la leçon que Dieu nous enseigne. Nous devons le chercher. Il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui, et il nous aime toujours et nous désire. Daniel a été inspiré à consigner sa propre réaction dans Daniel 9:3. « Je me suis tourné vers le Seigneur, l'Éternel, pour le chercher par la prière et les supplications, avec le jeûne, le sac et la cendre. » L'exemple de Néhémie nous est également parvenu. Armstrong écrit que lorsque Néhémie trouva sa nation dans l'affliction et le déshonneur, voici ce qu'il fit. « Quand j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurai. Je fus dans le deuil pendant plusieurs jours, et je jeûnai et priai le Dieu du ciel. » Néhémie 1:4. Il s'efforça aussitôt de se rapprocher de Dieu. Il ne le fit pas à moitié, mais avec ferveur et sincérité, de tout son cœur. Il s'attacha à trouver Dieu et sa volonté par la prière et le jeûne. Ces hommes désiraient ardemment connaître la volonté de Dieu. Ils étaient prêts à tout pour se rapprocher de lui et recevoir son pardon. Ils étaient même prêts à se priver de nourriture et d'eau si nécessaire. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ils prétendent avoir la foi, mais ils ne font pas vraiment confiance à Dieu et ne s'adressent pas à lui de tout leur cœur. Armstrong a écrit « Aussi difficile que soit de dire « je suis désolé », il est encore plus difficile de le penser sincèrement. » La supplication fervente à Dieu par la prière et le jeûne montre votre détermination. Ce n'est pas une simple action. Beaucoup disent, ce que vous faites, ce ne sont que des actions. Non, c'est montrer à Dieu votre sincérité et votre véritable confiance en lui. Dieu ne souhaite pas un repentir passager et éphémère, fruit d'un appel émotionnel ou de la pression de notre entourage. Le salut est une affaire personnelle entre vous et Dieu, mais il doit se faire selon ses conditions. Lisez vous-même ces étapes, cette formule du repentir, dans 2 Chroniques 7.12 à 14. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'ai entendu ta prière. J'ai choisi ce lieu pour y établir une maison de sacrifice. Même si je ferme le ciel et qu'il ne pleuve pas, même si j'ordonne aux sauterelles de dévorer le pays, même si j'envoie la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Armstrong a déclaré que ces étapes sont si simples, claires et évidentes. Que signifie s'humilier? Comment y parvenir concrètement? De la même manière que Daniel et Néhémie. David explique dans le psaume 35, 13 comment s'humilier. Quant à moi, lorsqu'ils étaient malades, je portais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait à mon cœur. Armstrong affirme que le jeûne témoigne de sincérité et de ferveur. Détournons-nous de nos voies, a-t-il écrit, nous devons nous détourner de nos voies mauvaises, cesser de pécher. Nombreux sont ceux qui se disent membres de l'Église. Ils proclament haut et fort leur foi en Jésus-Christ. Ils témoignent pour le Christ, mais les fruits ne sont pas au rendez-vous. Trop souvent, notre repentir est celui du monde dont parle 2 Corinthiens 7h10. Il passe ensuite au chapitre 2 de Joël. Je vais commencer au verset 12. « Maintenant donc, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Déchirez donc vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent du mal qu'il a résolu de faire. » Dieu ne souhaite pas un repentir superficiel, comme celui affiché publiquement, avec grand spectacle, sans lendemain, à la manière des réveils évangéliques d'autrefois. Je ne sais pas si cela se pratique encore dans le monde protestant, peut-être bien. Il ne veut pas simplement que votre nom figure sur les registres d'une église. Ce que Dieu désire, et ce que vous devriez sincèrement faire, c'est reconnaître profondément vos péchés et implorer son pardon. Dieu veut que vous présentiez vos excuses sincèrement. Il veut que vous cessiez de transgresser ses lois et que vous commenciez à les respecter. Herbert Armstrong a mentionné 2 Corinthiens 7, alors lisons ce passage. Je souhaite le lire car l'émotion accompagne généralement la repentance. Une simple émotion, ou une tristesse sans changement, n'est pas la repentance. Paul aborde ce point dans 2 Corinthiens 7, où il parle de la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. À partir du verset 8, « Car même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas, bien que je l'ai regretté. Car je vois que cette même lettre vous a attristé, mais pour un temps seulement. Maintenant je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a conduit à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin que vous ne subissiez aucune perte de notre part. » Ainsi, Paul dit, « Voyez, je ne voulais pas vraiment vous attrister, ce n'était pas le but en soi, le but était que vous vous repentiez, et votre tristesse vous y a conduit. C'est une bonne chose. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, et dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voyez donc ceci, votre tristesse selon Dieu a produit en vous un zèle remarquable, une justification profonde, une indignation sincère, une crainte respectueuse, un ardent désir, un zèle ardent, une ferme conviction. En toute chose, vous avez prouvé votre innocence dans cette affaire. La tristesse du monde engendre la mort, car elle ne conduit qu'à une souffrance passagère, une forme d'apitoiement sur soi-même, la peur du châtiment ou de la honte, ou quelque chose de semblable. La tristesse selon Dieu, elle, purifie du péché. Ouvrons l'épître de Jacques, chapitre 2. Au verset 18, Jacques écrit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Même les démons le croient, et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est morte? Les actes témoignent de votre sincérité envers Dieu. Il ne s'agit pas de mériter votre salut, mais d'être sincère à ce sujet. Ouvrez maintenant un Jean 3, à partir du verset 10. C'est ainsi que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il est essentiel de pratiquer la justice. Le psaume 119, 172 déclare « Tous tes commandements sont justice ». Certains pensent « Je n'ai pas besoin d'observer ces commandements, il me suffit d'accomplir des œuvres ». Ils négligent ainsi de nombreux enseignements bibliques. Ouvrons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'il suffit de croire en Jésus, et c'est tout à fait légitime. Croire en Jésus est une bonne chose, mais remarquez ce qu'il a dit à ce sujet. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit de faire la volonté du Père céleste, et non pas simplement d'appeler Jésus « Seigneur ». Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Chassé des démons en ton nom ? Fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Verset 23. Alors je leur déclarerai, ce sont les paroles de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Si vous pensez ne pas avoir à observer la loi de Dieu, ou si vous êtes très sélectif dans votre application de celle-ci, vous pratiquez l'iniquité. Or, beaucoup se considèrent comme le peuple de Dieu. Je ne vais pas lire le récit des Galiléens dont le sang était mêlé à celui des sacrifices, dans Luc 13, mais Jésus leur a demandé, « Pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que les autres ?» Au verset 5, il dit, « Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » Jésus s'adressait donc à des gens qui se croyaient le peuple de Dieu. Ouvrons le livre de Luc, chapitre 3, à partir du verset 7. Il s'agit de Jean-Baptiste. Alors il dit aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne commencez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père ». Puis il leur a demandé de se repentir et de ne plus commettre certains actes. Il a exhorté le peuple à changer. Il a ordonné aux collecteurs d'impôts de ne plus tromper le peuple et aux soldats de ne plus le blesser, l'intimider ou le mentir. Il leur a demandé de changer. À l'heure de la fin, la plupart des chrétiens sont de Laodicée. Ouvrons le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Je ne vais pas aborder aujourd'hui tous les aspects des différentes époques de l'Église, mais l'Apocalypse en évoque essentiellement sept églises sont mentionnées au chapitre 1 et décrites plus en détail au chapitre 2 et 3. Bien que les caractéristiques de chacune de ces églises aient persisté tout au long de l'histoire de l'Église, certaines ont prédominé à certaines périodes. L'Église la plus importante à la fin des temps serait celle de Laodicée. Voyons donc ce que Jésus leur a écrit à partir du verset 14 du chapitre 3 de l'Apocalypse. À l'ange de l'Église de Laodicée, il répondit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Jésus a dit « Je voudrais que vous ayez froid ou chaud. Si vous avez froid, vous le verriez. Si vous avez chaud, vous feriez ce que je veux que vous fassiez. » Verset 16. « Ainsi donc, parce que tu es tiède, et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Beaucoup ne le verront pas. Ces paroles sont celles de Jésus s'adressant aux chrétiens d'aujourd'hui, aux chrétiens de la fin des temps, à la plupart des chrétiens. Au verset 19, « Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Certes, personne n'aime être repris ou corrigé, mais Jésus a dit qu'il les aimait, et c'est ce qu'il fait. « Ayez donc du zèle et repentez-vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. » Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ils se croient chrétiens. Ils pensent que tout va bien. Ils ne pensent pas avoir à changer. Or, La repentance n'est pas synonyme de pénitence. La pénitence est un acte visant à expier son péché par une bonne action, la charité, la prière, ou quelque chose de similaire. L'Église de Rome, ainsi que divers autres groupes se réclamant du christianisme, n'interprètent pas la repentance selon l'enseignement biblique. J'aimerais en savoir plus sur le rosaire. J'ai été élevé dans la religion catholique. Je sais que lors de la confession, on nous invite parfois à réciter le rosaire. J'aimerais donc en apprendre davantage à ce sujet. Les prières qui composent essentiellement le chapelet sont organisées en série de 10 Ave Maria. Un Ave Maria est une prière particulière enseignée par les catholiques. Je la connais encore par cœur. Elle est suivie d'un Notre Père, c'est-à-dire la prière que Jésus a récitée dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, puis d'un Gloire au Père. Pendant la récitation de chaque série, appelée dizaine, on médite sur l'un des mystères du rosaire, qui évoque des épisodes de la vie de Jésus et de Marie. On récite généralement 5 dizaines par session. D'autres prières sont parfois ajoutées après chaque dizaine, notamment la prière de Fatima. Avant le Credo des apôtres et à la fin de chaque dizaine, on récite le Salve Regina. Le chapelet, dans son ensemble, est un moyen de réciter ces prières dans l'ordre. C'est pourquoi les catholiques utilisent un chapelet. Mais cela n'est pas biblique. C'est une erreur de procéder ainsi. Je tiens également à préciser, pour ceux qui l'ignorent, que le chapelet proviendrait d'une personne ayant affirmé avoir vu une apparition de Marie à la fin du Moyen Âge. Voilà son origine. Il ne faisait pas partie de la foi originelle. Les apôtres n'avaient pas de chapelet. Jésus n'en avait pas non plus. Ils ne vous ont jamais enjoint de réciter ces prières. Lisez Matthieu 6. J'ai mentionné que l'une des prières qu'ils récitent est ce qu'ils appellent Notre Père. Voyons ce que Jésus a dit à propos de la prière dans Matthieu 6. Verset 7. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Bien que le modèle de prière donné par Jésus dans Matthieu 6, 9-13 nous en donne une vue d'ensemble, il y a des points précis sur lesquels prier. Il ne s'agit pas de réciter des mots machinalement. Ce n'est pas se repentir. Dans certaines cultures, on fait tourner une roue censée envoyer une prière à Dieu. D'autres y installent une sorte de voile pour que le vent la fasse tourner. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite. J'ai vu ces objets tourner au vent lors d'un voyage en Asie. De même, compter les perles n'est pas la volonté de Dieu. Jacques 5:16 parle de la prière fervente et efficace du juste, qui est d'une grande puissance. Il ne s'agit pas de répéter des incantations en les comptant. Osée 7:14 dit que Dieu veut que les gens crient de tout leur cœur, et non qu'ils psalmodient des formules magiques. Récemment, ma femme et moi sommes allés à Amsterdam. En route pour la fête des tabernacles, nous avons participé à une visite guidée gratuite. Le groupe nous a fait passer devant une église. Cette église a été construite grâce à l'argent donné par les marins à leur arrivée à Amsterdam. Ils voulaient s'enivrer et fréquenter les prostituées. L'église de Rome et les marins ont conclu un accord. Les marins pouvaient payer d'avance et être pardonnés pour leurs actes. On appelait cela des indulgences. Plus tard, les indulgences ont pris une autre signification, mais c'est ainsi que cela se passait à l'époque. L'église se trouve dans ce qu'on appelait autrefois le quartier rouge d'Amsterdam. Nous y étions en journée. Il n'y avait pas de lumière rouge, du moins je n'en ai pas vu. C'est d'ailleurs pour cela que j'y étais. Revenons à Matthieu 6, verset 12. Les chrétiens sont appelés à prier pour que Dieu pardonne leurs péchés. Il ne s'agit pas de soudoyer quelqu'un ni de réciter des prières apprises par cœur. Le verset 12 de Matthieu s'y dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. » Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il faut pardonner aux autres si l'on veut que Dieu nous pardonne. La Bible l'affirme. Jésus l'a dit. Ce sont ses paroles. Je ne fais que lire une traduction. Il poursuit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Pour beaucoup, Tout tourne autour d'eux-mêmes. Comment trouver le salut? Et ils sont rongés par le chagrin terrestre. Mais il y a plus que cela. Il faut aussi se soucier des autres. J'ai déjà lu une partie du chapitre 2 des Actes. Je vais y revenir un instant. Cette fois, à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. À ces mots, ils furent profondément touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous êtes appelés à vous repentir. C'est ce que Dieu attend de vous. » Dans le livre de l'Apocalypse, inutile de chercher plus loin, le chapitre 14, verset 12, dit « C'est ici la persévérance des saints, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Il est appelé à garder les commandements de Dieu et la foi, et à avoir la foi. Je tiens également à préciser que faire cela n'empêche pas d'être de Laodicée. Apocalypse 12:17 parle des saints qui ont le témoignage de Jésus-Christ et qui gardent les commandements de Dieu. Or, ceux-là ne sont pas protégés de l'épreuve. Les Philadelphiens se voient promettre la protection, comme le mentionne le chapitre 3 de l'Apocalypse. Ce sujet est également abordé dans Apocalypse 12:14-16. Les saints sont appelés à observer les commandements de Dieu et à avoir la foi. Le salut exige l'obéissance, car l'iniquité n'est pas une option. J'ai lu les paroles de Jésus dans Matthieu 7:20-21. Dans 1 Jean 3:18, l'apôtre Jean écrit « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en acte et en vérité. » Nous sommes appelés à agir ainsi véritablement. La véritable repentance n'est pas une simple confession extérieure. La véritable repentance est un repentir envers Dieu le Père. Ouvrons l'Évangile selon Luc, chapitre 14. La véritable repentance touche profondément le cœur et l'esprit. Dieu exige une soumission totale, un abandon de nos propres désirs à sa volonté, car nous avons été influencés par Satan et par nos convoitises. Luc 14, à partir du verset 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas les aimer plus que Dieu. Beaucoup de gens sont bloqués, ou pensent l'être, à cause de liens familiaux ou de traditions. Jésus a dit que si l'on veut être son disciple, il faut placer l'amour de Dieu avant tout cela. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car qui d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la finir? Ce que nous disons à ceux qui viennent se faire baptiser, c'est qu'il faut bien mesurer le prix à payer. Il faut comprendre que Dieu attend de vous que vous viviez selon sa volonté, que vous vous repentiez, que vous changiez, que vous meniez une vie différente. Poursuivant avec Luc 14, de peur qu'après avoir posé les fondements et n'ayant pu achever son œuvre, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui. Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu terminer. Ou encore, quel roi, partant en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec ses 10 000 hommes, affronter celui qui marche contre lui avec 20 000? Ou bien, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une délégation et demande les conditions de la paix. Verset 33. De même, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Certaines personnes décident de rejoindre l'Église de Dieu. Elles souhaitent intégrer l'Église de Dieu continuante. Elles commencent un temps, puis se disent que c'est trop difficile et qu'elles ne veulent pas continuer. Or, n'oubliez pas, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Votre corps, votre vie, sont appelés à être un sacrifice pour Dieu. Cela signifie que vous devez agir selon sa volonté, et non selon la vôtre. Ouvrons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Si vous suivez la voie de Dieu, Jésus promet qu'il pourvoira à vos besoins. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas, en disant, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous vêtirons-nous? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Nous devons rechercher le royaume de Dieu chaque jour. La véritable repentance n'est pas un événement ponctuel. Elle n'est pas non plus synonyme de perfection. Pourquoi ne pas lire Philippiens chapitre 3 ? La repentance requise avant le baptême vise en effet à un changement radical de nos voies pour nous conformer à celles de Dieu. C'est une transformation spirituelle profonde. Pourtant, même lors du baptême, Dieu ne nous révèle pas tous nos péchés d'un seul coup. Nous ne les surmontons pas non plus immédiatement. Nous continuons à les voir et à les combattre au fil du temps, à mesure que nous grandissons dans la grâce et la connaissance des voies de Dieu. Alors, lisons Philippiens 3:12. L'apôtre Paul écrit : « Ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, ni que je sois déjà parfait, mais je poursuis ma course, afin de saisir ce pourquoi Christ Jésus m'a saisi. » Verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il s'efforçait de continuer, sans se soucier de sa vie passée, lorsqu'il n'appartenait pas à l'Église. Passons maintenant à la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Paul y explique qu'il n'avait pas encore tout compris, qu'il n'était pas parfait. Pierre écrit à partir du verset 17. « Vous donc, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, prenez garde de ne pas perdre votre fermeté. Alors, soyez vigilants et ne tombez pas, entraînés par l'erreur des méchants. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à stagner, mais à progresser dans la grâce et la connaissance. Je sais que j'ai déjà lu Matthieu 6. Je voudrais relire la New Living Translation. Matthieu 6, à partir du verset 9, Jésus dit, « Voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » En grec, littéralement, au lieu de « péché », on parle de « dette ». Mais vous avez une dette, un péché, qui nécessite le pardon. Vous devez vous en libérer. Même un véritable chrétien a besoin de progresser, de se repentir et de changer. Ouvrons l'épître de Jacques, chapitre 1. Puis nous passerons au chapitre 2. Jacques écrit, au verset 22 du chapitre 1, « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Et s'il se regarde, il s'en va, et aussitôt il oublie comment il était. » Rappelez-vous l'histoire de Joe, qui sortait, s'enivrait et commettait l'adultère. Verset 25. « Mais celui qui plonge son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux mais un acteur de la parole, celui-là sera heureux dans son action. » Passons maintenant au chapitre 2, à partir du verset 8. Jacques écrit, « Si vous accomplissez vraiment la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais qui pèche contre un seul commandement, se rend coupable de tous. On ne peut pas dire que je sois vraiment bon, mais il y a une chose que je ne changerai pas. Je ne peux tout simplement pas, à cause de mes origines ethniques, de ma famille, de mon travail, de mon gouvernement, et j'en passe. » Verset 11. « Car celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez donc comme des gens qui doivent être jugés par la loi de la liberté. » Nous devons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu, et l'apôtre Paul nous y a invités. Ouvrez votre livre, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 28. Je vous laisse un instant pour y arriver. Mais que chacun s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pour cela que parmi vous, Beaucoup sont faibles et malades, et beaucoup sont morts. Le manque de discernement. Si Jésus a été mis à mort pour nous, c'est en partie à cause de nos péchés. Verset 31. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Paul s'adressait aux chrétiens. Nous sommes censés nous examiner nous-mêmes afin que Dieu n'ait pas à nous juger, et à recourir à divers moyens pour nous amener à changer. Il poursuit. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin de ne pas être condamnés avec le monde. Il y a une raison pour laquelle les choses nous arrivent. Vous n'êtes pas obligés d'aller jusque-là, mais 2 Timothée 3, 16-17 dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé à toute bonne œuvre. » Et cela vaut aussi pour les femmes. Nous sommes appelés à comprendre la parole de Dieu, à nous en servir comme d'un miroir, à suivre l'exemple de Jésus et à transformer nos vies pour lui ressembler. Ouvrons le livre de Jérémie, chapitre 10. Beaucoup pensent avoir une longue expérience, et par conséquent, leur jugement est toujours bon. Prenez garde à cela. Nombreux sont ceux qui s'illusionnent. Jérémie 10:23. Seigneur, je sais que la voie de l'homme ne dépend pas de lui-même. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Verset 24. Seigneur, corrige-moi avec justice, non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à néant. Tu dois prier Dieu pour qu'il te corrige. Ouvrons l'Épître aux Romains, chapitre 8, et commençons la lecture au verset 6. Nous pouvons être influencés par Satan. Romains 8:6. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. En effet, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Autrement dit, si Dieu nous donne son esprit, nous pouvons lui obéir, et nous le recevons après le baptême et une véritable repentance. Verset 9. Pour vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà en substance la définition biblique d'être chrétien. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Lorsque Dieu vous accorde le repentir, vous avez la force de résister aux tentations du monde. Vous vous tournerez vers Dieu avec une sincère et profonde tristesse à cause de votre vie passée, et vous vous soumettrez à ses lois et à son mode de vie. Votre ancienne nature a été enterrée lors du baptême. Une personne véritablement convertie a changé de vie pour se conformer à celle du Christ. Elle s'efforce désormais de vaincre ses désirs charnels, en résistant à Satan et aux influences de la société. Vous vous soumettez à Dieu et vous lui faites confiance. Le véritable repentir est un bouleversement profond dans une vie. C'est une crise spirituelle et émotionnelle, déclenchée par une conviction douloureuse et intense. C'est une expérience qui nous fait prendre conscience brutalement que non seulement nous avons mal agi, mais que nous sommes dans l'erreur. Ceux qui se repentent sincèrement sont profondément touchés. Ils sont bouleversés par la tromperie et la vanité qui imprègnent leurs paroles et leurs actes. Ils réalisent que même leurs bonnes actions ne sont, la plupart du temps, que des tentatives égoïstes pour apaiser la colère de Dieu ou pour se sentir supérieur aux autres. Le véritable repentir est une prise de conscience aiguë de nos péchés personnels, de ces mauvaises habitudes auxquelles nous nous complaisons et dont nous prenons plaisir, et qui ont nécessité la mort brutale et atroce de Jésus-Christ. Vous pouvez lire à ce sujet dans Isaïe 53. Le véritable repentir est adressé à Dieu et à personne d'autre. Ceux qui se repentent sincèrement se soucient de leur relation avec Dieu et non de leur relation avec les autres. La véritable repentance signifie trembler devant la parole de Dieu, comme je l'ai lu dans Isaïe 66. Quand Dieu parle, nous sommes appelés à écouter. Nous devons être soumis et réceptifs à son enseignement. Nous devons être prêts à observer ses fêtes, à payer la dîme, à nous éloigner de toute fréquentation mondaine, afin d'être à la hauteur de ses exigences. Ceci est tiré d'un article intitulé « Voici la véritable repentance », paru dans le magazine Good News en 1982. Ce résumé explique que la véritable repentance est un désir sincère de remplacer nos réactions égoïstes et charnelles par les inspirations de l'Esprit de Dieu en nous. La véritable repentance est une étape cruciale et déterminante sur le chemin de la vie authentique, le chemin de l'éternité. Écouterez-vous Dieu jusqu'au bout, ou seulement à moitié? Pensez-vous encore, Voilà comment je vois les choses. Beaucoup de gens le pensent. Je reçois constamment des courriels de personnes qui estiment qu'un détail important à leurs yeux l'est plus que de soutenir l'œuvre de Dieu. T'es-tu repenti? T'es-tu vraiment repenti? Sinon, les paroles de l'entraîneur de basket à son joueur qui avait volé le ballon et marqué le mauvais panier restent d'actualité. Tu vas dans la mauvaise direction. Arrête-toi, fais demi-tour et va dans l'autre sens. Voilà ce qu'est le véritable repentir chrétien. Ici le docteur Bob Thiel pour l'Église de Dieu continuante.